le but de notre évolution doit être l'homme. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'écoute les uns des autres pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but.
Bonjour à tous et bienvenue dans Afrotopic, le podcast de Génération Afrotopia qui s'interroge sur ce que sont les défis de l'Afrique et du monde et les manières d'y répondre. On aborde les enjeux contemporains depuis les Suds en général et les mondes africains en particulier, car ce sont à la fois les sociétés qui subissent le plus fortement les destructions générées par le modèle occidental et en même temps celles qui lui résistent le mieux. Parce que penser le présent à partir de l'Afrique monde est radical, cette radicalité est peut-être ce qui nous permettra de voir clair, de penser clair et d'entendre dangereusement, afin de nous rendre capables de réinventer le monde, nos manières de l'habiter et nos manières de nous relier. Dans chaque épisode, on reçoit un invité qui développe des idées ou des initiatives qui nous permettent de nous approprier un enjeu culturel, idéologique, écologique, économique, politique ou encore épistémologique afin d'alimenter nos réflexions et nourrir nos imaginaires pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre Pierre Rabhi et on en est très heureux. Alors, on ne présente plus Pierre Rabhi, grande figure de l'écologie en France, pionnier de l'agriculture écologique, fondateur de nombreux lieux, structures, mouvements comme celui des Colibris, et auteur de nombreux livres dans lesquels il partage sa vision du monde et nous invite à le suivre dans la voie de ce qu'il nomme la sobriété heureuse. Alors, dans cet entretien, on a surtout essayé de resituer les choses et de repolitiser la figure de Pierre Rabhi en mettant l'accent sur des aspects souvent occultés de son parcours. On rappelle que Pierre Rabhi, c'est un enfant de la terre d'Algérie, que c'est avant tout une figure qui incarne le refus de la condition ouvrière moderne, le refus du pacte de la consommation proposé au milieu populaire, auquel lui et son épouse se trouvaient assignés à 20 ans, que c'est quelqu'un non seulement qui s'est levé et qui s'est cassé il y a déjà 60 ans, mais qui a surtout énormément œuvré, construit et semé en France et au-delà. On découvre à quel point la trajectoire de Pierre Rabhi est liée à l'entreprise destructrice et prédatrice de la modernité occidentale, et comment son parcours de vie est un bel exemple d'émancipation. Né dans les années 30, dans une Algérie qui était alors une colonie française de peuplement, c'est l'exploitation de mines de charbon pour le compte de l'industrie française qui a détruit son village, transformé les paysans en ouvriers mineurs et condamné à l'exode urbain ou métropolitain toute une génération, en modifiant durablement l'organisation de la vie humaine sur ce territoire. Il nous raconte son parcours, du déracinement au réenracinement, sa quête philosophique et spirituelle, son retour à la terre à contre-courant. Il nous parle de sacré, de droit à l'expérimentation, de convivialisme et de la nécessité brûlante de vivre autrement. Il nous raconte aussi comment c'était de travailler en agroécologie sous Thomas Sankara au début des années 80 avec les paysans du Burkina Faso. C'est un épisode que l'on a enregistré en août 2019, il y a donc presque un an, et on ne peut s'empêcher de noter l'usage prémonitoire du mot « confiné » pour décrire les populations urbaines, si, et la pertinence de son analyse sur la fragilité du modèle des villes hors sol et consuméristes à laquelle la séquence Covid-19 a très largement donné raison. Voilà, pour nous Pierre Rabhi, c'est, avant quoi que ce soit d'autre, quelqu'un qui a tracé une voie et dont l'histoire personnelle illustre à la fois la fracture coloniale et environnementale de la modernité, ainsi qu'une belle manière de la dépasser. Donc à tous ceux qui voudraient opposer écologie et classe populaire, on rappelle que l'une des grandes figures de la contestation du modèle productiviste et consumériste est incarnée en France par un ouvrier d'origine algérienne qui a fait sécession pour devenir paysan et proposer une voie alternative. Et à toute la jeunesse des quartiers, on a envie de dire qu'on a des figures inspirantes pour penser et construire le retournement du présent. Cet épisode a été enregistré dans le jardin de Pierre et Michel Rabhi, en compagnie très remarquée des cigales. On les remercie chaleureusement pour leur accueil et on passe le bonjour à toute l'équipe de Terre et Humanisme en Ardèche. Pour prolonger la réflexion, on vous invite à écouter notre épisode avec Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale et à aller découvrir Imago TV, la plateforme de ressources audio et vidéo pour la transition écologique, sociale et politique. Bonne écoute. Pierre Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes né dans le Sahara sud-algérien à la fin des années 30 et votre itinéraire de vie vous a conduit depuis le désert d'Afrique du Nord au Garrigue des Cévennes, en passant par l'industrie automobile de la région parisienne ou encore au Burkina Faso sous Thomas Sankara. Alors en France, on vous connaît beaucoup comme étant une voix paysanne qui porte depuis de nombreuses années maintenant une critique forte sur le modèle de la société productiviste et consumériste, et vous promouvez l'écologie et les pratiques agroécologiques. Mais depuis le Sud, depuis les Suds, on vous voit surtout comme un enfant de la terre d'Afrique qui porte un regard sur le monde, un regard influencé par une culture, un mode de vie radicalement en rupture avec le modèle occidental. Vous avez d'ailleurs œuvré depuis les années 80 à diffuser un autre modèle de développement, un contre-modèle de développement, un contre-développement, notamment au Burkina Faso, on en reparlera. Avant de commencer, est-ce que, Pierre Rabhi, vous pouvez d'abord nous raconter un petit peu votre parcours, ce qu'ont été les prises de conscience qui vous ont amené à rompre avec la société de consommation, les sociétés productivistes dans un premier temps, pour opérer une reconversion à la terre alors que vous vivez en France et que vous destinez à vivre en ville, à Paris vraisemblablement?
Oui, je suis né dans les Junior 1938, et à ce moment-là, à ma naissance, il y avait... notre pays, sud de l'Algérie, etc., était colonie française. Et est-ce une chance ou une malchance, les Français découvrent de la houille sous nos pieds et bien sûr veulent exploiter cette houille. Ce qui fait que ça a amené un chambardement et un changement, un bouleversement très très important de notre mode d'organisation qui était les oasis. Dans un désert considérable, il y a des oasis que les hommes ont. Les oasis, c'est pas naturel, hein, c'est les êtres humains qui organisent un espace de vie dès lors qu'il y a de l'eau. Et à ce moment-là, on crée l'oasis parce que en zone aride et en zone de sécheresse, enfin en zone aussi de température extrêmement élevée, donc c'est pas d'aujourd'hui que ça s'inscrit d'ailleurs dans les connaissances agronomiques très très anciennes. Les oasis existaient déjà il y a 2000 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Où les hommes, dans des régions arides et difficiles, créent des îlots de vie. Pour cela, il faut évidemment de l'eau, il faut de la terre, mais aussi il faut de l'ombre. Parce qu'on est dans des zones où tout est brûlé par un soleil beaucoup trop intense. Alors l'oasis s'organise évidemment dans un lieu où il y a de l'eau. On plante des palmiers, notamment dattiers, qui s'ouvrent comme des parasols, puisqu'il est ouvert comme des parasols. À l'ombre du palmier, on peut cultiver des arbres fruitiers. Et à l'ombre du palmier et des arbres fruitiers, on a les cultures troisième niveau, qui est la culture des légumes, des céréales, etc. Et ainsi, on obtient, disons, des îlots de survie qui sont très intelligemment réalisés et organisés, avec évidemment l'eau comme étant absolument vitale. Eh bien, je suis né un peu dans cette... bien que ça ait évolué, la cité a été créée par un thaumaturge, soufi non violent, et c'était l'âme en quelque sorte du lieu. Et autour de ce soufi, autour de son mausolée, autour de ça, on a créé une cité pour organiser la vie commune. Voilà. Et il se trouve que dans cette vie commune, mon père était, lui, un musicien, il était forgeron, et il était tellement habile de ses mains qu'il a pu se convertir à convertir ses activités en fonction des conjonctures et des nécessités. Sauf qu'à un certain moment, est-ce une catastrophe ? Ce n'est pas une catastrophe. On découvre du charbon dans notre sous-sol. Et à partir de ce moment-là, l'extraction du charbon va amener un chamboulement et un bouleversement énorme dans le mode d'existence. Les gens deviennent des salariés mineurs, partent le matin propres, reviennent noirs de suie et de charbon, et avec leurs lampes à acétylène pour descendre dans les entrailles de la terre pour aller extraire ce charbon, et donc grand chamboulement. Et à ce moment-là, mon père se pose la question de l'avenir, et finalement, il pense que l'avenir, ou disons le mode d'existence, n'est plus entre nos mains. Donc il me confie à un couple de Français venus travailler dans le coin, un ingénieur et une institutrice, pour être éduqués. Et c'est comme ça que je suis passé sans transition d'une culture à une autre, avec ses contradictions, voilà, avec toutes les contradictions qu'il y a. D'un côté, le vin est prohibé, le porc est prohibé, de l'autre côté, on se régale de vin et on se régale de saucissons. Donc c'est un peu dans ce contexte-là général que j'ai grandi, avec évidemment une espèce d'interrogation précoce probablement qui a beaucoup joué, puisque j'étais entre deux mondes en contradiction. À ce moment-là se pose la question, qui a raison? Est-ce que c'est le nord, le sud? Puis ça m'amène à essayer de trouver des réponses en lisant beaucoup, et en particulier les philosophes. Le philosophe, il est censé être celui qui a pensé le monde, qui a pensé l'humain, et qui propose, disons, un art d'exister qui puisse être relié à un mode de pensée. Ça ne peut pas être simplement dans le factuel, mais c'est aussi quelle pensée, quelle croyance, quelle religion, quelle idéologie, etc., etc. Et puis j'ai mis, après avoir lu beaucoup de philosophes, chemin faisant, après quand j'ai acquis de la maturité, finalement ce qui s'est imposé à moi, c'est Socrate. Pourquoi? Parce que Socrate dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et c'est ça la vérité. Nous ne savons rien. Alors arrêtons de croire que nous savons. Nous ne savons rien. Nous savons l'élémentaire, mais nous ne savons pas le fondamental. Fondamental, pourquoi nous existons, qu'est-ce que la vie, etc. Tout le monde se pose des questions, sauf que ces questions sont contradictoires et sont en général facteurs de conflit, facteurs d'antagonisme et de conflit. On a mis en route un système dans lequel tout le monde est en quête de la vérité et finalement déclare que c'est lui qui la possède. Et puis finalement, la vérité c'est quoi? C'est encore une autre question qui s'ajoute à celle de Socrate. Je sais rien maintenant, la vérité c'est quoi? Moi je pense que le message christique est le seul qui me convient, parce que lui, il a évacué tout ça en disant il n'y a qu'une énergie qui peut changer le monde, c'est l'amour, c'est tout. Aimez même vos ennemis, sortez de ces antagonismes permanents qui sont, etc. Si vous développez l'amour, eh bien, en développant l'amour, vous êtes dans la vérité. Voilà. Et encore l'amour, il faut faire attention. Parce que aimer, mais aimer quoi? Et on sait ce que l'amour humain déclenche, comme jalousie, machin, etc. Tout est relatif, si vous voulez. Mais ce que j'entends par l'amour, c'est pas seulement ce qui est réservé à la relation humaine, mais aussi, c'est pour ça que je suis écologiste, parce que j'aime les arbres, parce que j'aime les oiseaux, parce que j'aime les baleines, parce que j'aime cette beauté de la vie. Et c'est ça pour moi, l'amour. Bien sûr, il y a une relation humaine. J'ai une compagne que j'adore, j'ai des enfants que j'aime, etc. J'ai des amis que j'aime profondément, mais l'amour ne doit pas se restreindre simplement au cercle humain avec nos contradictions et nos conditions qui sont toujours là. Je viens t'aimer, mais à la condition que...
C'est intéressant que vous en parliez, que vous relayez le message christique comme étant celui, un message sur une énergie. Et considérer l'amour comme une énergie.
Oui. Et j'ajouterais qu'il n'a jamais... Les bibliothèques entières pleines de théologie pour expliquer, etc., ça n'a aucun sens. On n'explique pas. C'est très simple. C'est très, très, très simple. Il y a une anecdote dans la Bible que quand il y avait adultère, c'était la femme qui était lapidée. Parce qu'elle était considérée, elle a sauté sur le bonhomme, elle l'a violée, ou je ne sais pas quoi. On peut tout imaginer. Et c'était une injustice absolument incroyable. Totalement incroyable. Eh bien, pour abolir cela, il ne pouvait pas prendre un décret radical, mais il a une astuce quand même vraiment intéressante, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. J'ai trouvé ça génial, comment résoudre ce problème sans prendre parti, mais en mettant les gens dans la vérité totale. C'est génial. Et donc c'est là que j'ai trouvé, dans ce message christique, véritablement ce qui me paraît être la seule la seule énergie qui est capable de sauver l'humanité.
Voilà. Donc la philosophie, les lectures que vous avez faites, puis la découverte des philosophes, et ensuite la découverte peut-être, ou auparavant d'ailleurs, de la religion chrétienne, ou en tout cas du message du Christ, parce que la religion c'est encore autre chose.
Oui.
Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à refuser le mode de vie occidental, la vie salariée, des choses comme ça?
Moi, je considère que la modernité... alors, je veux choquer personne, mais c'est de l'esclavage. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on demande aux citoyens? Donne, troque toute ton existence contre un salaire. Et puis, à la fin, on te donne une retraite et tu vas mourir. Et ça encore, c'est dans les pays qui peuvent assurer aux gens une retraite... des vieux, etc. C'est de l'aliénation. J'ai pas une vie à passer, à produire et consommer en étant consumé. Mais ça, ce que je vous dis, contrairement peut-être à toutes sortes de théories comme ça gratuites, c'est que je l'ai vécu. Je ne suis pas parti sur l'idée et je ne m'octroie aucun, disons, satisfaitiste personnel. C'est simplement que ma philosophie de la vie s'est construite à partir de constats très concrets, réels. Et j'avais vraiment l'impression que tous ces ouvriers, même ces gens qui travaillent dans les bureaux, tous les matins arrivent, pointent, travaillent toute la journée, ensuite la sonnerie finale, ils rentrent chez eux, ils recommencent le lendemain. Ils ont, ça donne, comme disait un ami, 11 mois de coma et un mois de réanimation. On octroie aux gens un mois pour aller se refaire, mais pendant 11 mois, ils sont privés de la beauté d'un coucher de soleil, d'un lever de soleil, du chant de l'oiseau, de toute la beauté que nous offre la nature gratuitement. Il n'y a pas besoin d'argent. Et donc c'est là, et à la fois l'individu qui rentre dans un processus d'incarcération. C'est-à-dire de la maternelle à l'université, l'enfermé, ensuite il travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes. Pour s'amuser, on va en boîte, on y va dans sa caisse, on a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. C'est-à-dire que cet itinéraire d'incarcération, sous une espèce d'illusion de liberté. C'est-à-dire, attention, pour avoir la liberté, il faut avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas libre. Non, c'est pas ça. Et en même temps, il y a un excès d'activité humaine dans la partie de l'humanité privilégiée. Et le modèle occidental n'aurait jamais pu s'ériger sans les ressources du tiers-monde. Pétrole, tout. Donc, ce qui fait que le monde occidental a eu le génie technologique, etc. Mais ce génie technologique serait resté obsolète si par la colonisation, ces immigrés... de l'époque, sans cette migration... européenne
massive et destructrice,
on a éradiqué les peaux rouges, que j'aime beaucoup les cosmogonies peaux rouges, je sais pas pourquoi, j'aime cette espèce de d'élégance sauvage, et c'est pour ça que dans ma chambre j'ai affiché le discours du chef indien Seattle, à qui on veut acheter, les Européens veulent acheter leur terre, et Seattle dit écoutez, comment voulez-vous qu'on vous vende une terre qui ne nous appartient pas, puisque c'est nous qui appartenons à la terre? Voilà la vérité. C'est pas autre chose. Et c'est tout simple et c'est grandiose. Et tout le discours qui suit, c'est un discours spirituel et en même temps axé à la fois sur la raison et la réalité objective, mais en même temps avec une consonance sacrée permanente. C'est-à-dire que le sacré est intégré complètement dans... Il n'est pas le sacré à côté. Il est intégré complètement. Et là, j'admire ça parce que le sacré est dans la vie. Il n'est pas dans les églises, les mosquées. C'est pas ça. Pour moi, c'est ça.
Oui, donc, rapidement, de votre vécu d'expérience dans l'industrie automobile, vous avez perçu... l'hypocrisie du modèle, le mensonge, l'aliénation produite à tous les niveaux pour l'être humain très concret dans son quotidien, oui. Et puis sur le modèle de la société qui fait miroiter le bonheur. On appelle un ascenseur, oui, puis un ascenseur social ou autre, et puis l'accès à une félicité qui serait procurée par la possession de biens matériels. Alors que, paradoxalement, on voit que cette être humain-là, dans ces sociétés-là, il est de plus en plus agité, de plus en plus à essayer de repousser des frontières.
Ça a démarré par l'asservissement. Et ça a continué. C'est-à-dire qu'il y a eu, évidemment des gens qu'on a poussés à aller extraire les minerais, le charbon, les minerais de toutes sortes, et ils ont donné leur vie à cela, entièrement. Rien qu'à cela. Ensuite, bon, ben, on est passé par les hauts fourneaux, enfin toute la fabrication qui amène à ce que vous êtes arrivé avec une bagnole. Voilà. Mmh. Et moi aussi, je circule avec cette bagnole. Donc tout ça, c'est si vous voulez, l'innovation humaine et l'organisation humaine sur les connaissances techniques et scientifiques qui ont abouti à produire des outils, et en particulier les outils qui remettent en question la notion du temps et de l'espace. Parce que pendant longtemps, le temps et l'espace étaient déterminés entièrement par la nature, et l'être humain l'a intégré, le temps et l'espace, à partir de sa propre mesure à lui, de sa propre dimension à lui. Combien je peux mettre de temps en marchant d'un bon pas vers tel endroit, compte tenu évidemment de mes capacités métaboliques. C'est-à-dire que l'énergie métabolique a été longtemps celle de l'homme, celle de l'animal. L'homme a emprunté l'énergie animale qui est plus puissante que la sienne, et puis et le temps n'avait pas été modifié du tout depuis les origines. Voilà, la saison, le cycle des saisons. Quand vous plantez quelque chose, bah, vous plantez pas aujourd'hui, récoltez le lendemain. Il faut donc patienter, attendre. Et donc on était dans cette cadence de la vie, la circulation sanguine aussi est reconnue, les pulsations cardiaques sont aussi dans les cadences, tout ça est cadence, tout est cadence. Et puis on est sorti des cadences pour rentrer dans la frénésie, c'est-à-dire le temps a été modifié, le temps réel a été modifié par un temps artificiel. Du coup, on est dans la civilisation, il ne faut surtout pas perdre de temps.
Le temps bien utilisé, c'est celui qui met en valeur le capital. Alors, dès les années 80, vous êtes parti au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette époque, sur ce que vous avez mis en place là-bas, donc au village de Gorom Gorom? C'était à l'époque de Thomas Sankara que vous avez rencontré, je crois.
Oui.
Et est-ce que vous étiez déjà à cette époque dans la défense d'un mode d'agriculture écologique, enfin à promouvoir l'agroécologie, à développer des techniques, ou en tout cas à permettre à des populations de se les réapproprier, puisque souvent il s'agit de techniques ancestrales, un peu passées de mode ou oubliées. Voilà, est-ce que vous pouvez parler de...
Il y a un préalable, c'est-à-dire qu'en fait avec Michel, on vivait à Paris, mon épouse, on a décidé de faire un retour à la terre. Comme ça, on a décidé que notre vie ne se déroulerait pas dans une ville avec un salaire en attendant la retraite. C'était impensable. Donc on a fait un retour à la terre. On avait encore l'énergie de nos 20 ans, 21 ans, etc. Et on a dit il faut peut-être aller vivre à la campagne, mais comment, où, avec quoi, etc. Donc toutes les questions se sont posées. Et on dirait que le ciel nous a aidés parce que finalement on nous a signalé les personnes qui étaient susceptibles de nous recevoir, et ça c'est en 61, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc on a connu un médecin qui nous a bien accueillis au moment où il y avait exode rural, c'est-à-dire que la population partait vers les villes. Et nous on fait le contraire, le retour à la terre. Voilà. Et donc apprentissage de la terre, j'ai suivi quelques cours. Et puis j'ai été ouvrier agricole pour connaître un peu les techniques, parce que la terre ça se travaille, c'est pas à coup de théorie qu'on peut faire à bouffer. Hein. Et là, ça a été une de mes grandes initiations, c'est qu'en fait l'agriculture moderne agresse la vie par les substances chimiques de synthèse que l'on met partout. On met ça dans la terre. Les plantes malades, on intervient avec des substances aussi, des pesticides toxiques, etc. Et donc la toxicité était rentrée dans la pratique agricole par un exploitant agricole. Et ce n'est plus le paysan, c'est un exploitant agricole, c'est-à-dire celui qui travaille, d'ailleurs le terme même est suffisamment parlant, exploitant. Donc on exploite,
avant, rapport de production.
Voilà. Avant, dans les bourgs ruraux, on disait le faire valoir. C'est-à-dire, vous prenez, quand vous avez une transaction avec quelqu'un qui met la terre à votre disposition, vous vous engagez sur votre honneur et en conscience de ne pas abîmer ce patrimoine, même au contraire de l'améliorer. Et comment vous allez l'améliorer ? Ben, vous n'allez pas mettre des produits chimiques. Vous allez le faire valoir et le faire grandir sa fertilité, grandir ses potentialités, etc. Et quand vous le rendez, il est meilleur que quand vous l'avez reçu. Et ça, c'est un engagement moral à l'égard de la terre, mais qui était conçu comme vivante, et non pas comme un substrat. Et l'agronomie moderne, il y a la pétrochimie internationale qui a orienté le tout. Voilà. Elle a produit un agronome prescripteur et un médecin prescripteur. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de la terre est embrouillée, la notion de la santé, elle est venue mécaniste. Vous avez telle maladie, on vous donne tel remède. Voilà. Mais quant à aborder l'être humain qui est pas en bon état dans sa globalité, dans sa psyché, dans ses émotions, dans ses états, qu'il est perçu comme une mécanique. Et même la formation des médecins passe par la dissection. C'est-à-dire qu'on découpe des cadavres et on étudie organe par organe. Ce qui amène d'ailleurs une fragmentation, c'est-à-dire tout est fragmenté. Et on prend un morceau, ça donne des spécialistes. Celui qui s'occupe que de l'œil, celui qui s'occupe que de la bouche, celui qui s'occupe que de l'oreille, celui qui s'occupe que de l'estomac. Et vous avez donc une fragmentation de l'individu, et la perception globale de l'individu, c'est-à-dire âme, cœur, émotion, corps et tout ça relié, remise complètement en question. Et c'est comme ça qu'on obtient une médecine qui est la médecine de la prescription. Je ne critique pas les médecins, j'ai des amis prescripteurs qui sont des hommes ou des femmes adorables. Je suis pas en train de critiquer l'être humain, je suis en train de critiquer le principe qui a amené à avoir une perception de la santé comme de la terre, basée sur la fragmentation et non pas sur l'unité. C'est compréhensible.
Ce retour à la terre d'abord ici.
C'est fait d'abord l'expérience ici, avec des hauts, des bas, des réussites, des échecs, et donc ça a été l'initiation. Et à partir du moment où on a engagé toute la ferme à nos risques et périls sur l'agriculture écologique, l'élevage écologique, etc., on a engagé une expérience dans laquelle les risques nous revenaient entièrement. Et voilà que ça réussit. Qu'effectivement, on peut améliorer la terre. Une terre qui était aride, il n'y avait pas une seule végétale ici. Non, rien. Il faut avoir vu avant comment c'était un désert. Mais on a choisi l'agriculture écologique pour n'être pas simplement dans l'usage des matières synthétiques que les usines produisent. Et entre autres, une matière synthétique qu'on appelle le nitrate. Et le nitrate était l'ingrédient principal pour faire des explosifs de guerre. Donc vous voyez la symbolique aussi. Alors après, je découvre évidemment par la littérature qu'il existe l'agriculture biologique, certes pas très divulguée parce qu'elle était assez confidentielle, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle était récusée par l'autre agriculture qui disait c'est... Voilà. Et je découvre la biodynamique l'anthroposophie, etc. Je découvre tout ça et je m'aperçois qu'il y a une perception particulière de la vie où cette approche est vraie. C'est elle qui est juste, qui est vraie, et c'est pas la perception mécaniste de la vie. Voilà. Et on choisit ici, on dit pas d'engrais chimiques, pas de pesticides de synthèse, on va cultiver la terre, la fertiliser. Une terre qui est en bonne santé produit automatiquement des végétaux en bonne santé, parce que ces végétaux vont trouver toutes les substances dont ils ont besoin parce que la terre est vivante. Et ainsi, on réduit considérablement la vie devient une puissance non seulement créatrice, mais protectrice. Et on n'a pas besoin d'avoir recours à des tas de substances chimiques pour... Et une fois que ça a été mis au point, c'est à ce moment-là que je suis parti en Afrique. Mmh. C'est suite à une expérience réalisée d'abord à nos frais et à nos risques et périls. Mmh. Et cette certitude-là, enfin, il y a un Burkinabé qui un jour est venu faire un stage chez nous, envoyé par sa structure, et il fait un rapport en disant, mais Pierre Rabhi, il n'utilise pas d'engrais chimiques, il n'utilise pas de pesticides de synthèse, il utilise des semences non sélectionnées, etc. Et ça marche très bien, ils ont un troupeau de chèvres, ils font du fromage, ils vendent leur fromage au marché, etc. etc. Donc ils ont un rapport à l'animal et un rapport à la terre qui est... Voilà. Et c'est fort de tout ça que j'ai voulu transmettre. Mmh. C'est pas transmettre parce que j'ai eu un diplôme d'agronomie. Mmh. C'est transmettre sur une... Et je me suis dit... À ce moment-là, j'étais totalement convaincu qu'il faut que les paysans comprennent et appliquent cette pratique-là. Mmh. Et immédiatement, on a vu que ces paysans, ils n'étaient plus obligés d'acheter des engrais chimiques, ni des pesticides de synthèse, ni des semences sélectionnées, qu'ils travaillaient leur terre avec les lois de la vie. Et on prend la loi de la vie, c'est que tout, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ben, l'agriculture, c'est ça. C'est-à-dire qu'on, même les déchets végétaux, on les collecte, paille et tout ça, on les fait fermenter. Ça s'appelle compostage. Et cette fermentation aboutit à quoi ? À donner un humus. Et l'humus, c'est celui qui, dans la nature, entretient les forêts. C'est-à-dire que la forêt grandit, les feuilles tombent, et les feuilles, quand elles tombent, elles rentrent dans un processus de transformation qui fait l'humus. Et c'est ce qui sent bon dans la forêt. Et ça, c'est la matière nutritive qui a été faite à partir des déchets organiques. Mm. Et c'est pour ça que l'étymologie humus, humanité, humilité, humidité, enfin, c'est un peu la même chose. D'accord. Parce qu'il y a longtemps qu'on a compris que l'humus, c'est le dynamisateur de la vie. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai transporté en Afrique, pour continuer sur la question. Mm. Au bout d'un moment, satisfaction des paysans. Ouais. Ça pousse bien, on a moins de maladies, on n'a pas besoin de se ruiner. Voilà, on n'achète plus d'engrais, etc. etc. Et voilà. Le gouvernement satisfait. Mm-hmm. Je travaille avec une organisation qui s'appelle Point Mulhouse, mm-hmm. qui était une petite compagnie aérienne un peu spécifique aussi. C'est toute une histoire.
Oui. C'est une association, c'est ça ?
Une association, loi 1901, qui possède des avions, qui désenclave des pays comme le Burkina. Mm. Voilà. Il crée une structure d'accueil du public dans un pays qui s'appelle Gorom-Gorom. C'était destiné à dire, parce qu'ils avaient du succès au plan du transport aérien, puisqu'ils proposaient les billets d'avion vraiment pas chers du tout.
Ouais, l'idée de Point Mulhouse, c'était de permettre aux Burkinabés de voyager facilement.
Eux ou les autres, ou ceux qui sont au nord aussi. Ouais, ceux qui sont au nord, ça rend l'avion plus accessible à des gens qui ont moins de moyens. Mm. Mais ce n'est pas à des fins simplement capitalistes, c'est à des fins de service, etc. Voilà. Mm. Ils créent une structure d'accueil du public, parce qu'au bout d'un moment, ils créent la structure. Mais dans cette structure arrivent des gens qui débarquent d'Europe pour aller festoyer au milieu d'une population qui crève de faim.
Oula.
C'est pas ce qu'ils voulaient, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Donc du coup, la presse, etc., et tous ceux qui leur voulaient du mal, ils sont allés. Hein, les Point Mulhouse créent des ghettos de blancs qui vont festoyer au milieu de la misère, etc., etc. Donc ils se sont mis à dégringoler dans leur image. Et un jour, je les vois arriver. Ils me disent, on vient te voir, il y a 3 ans que tu travailles au Burkina. On a ce problème, si on ne trouve aucune solution, la structure qu'on a créée, qui est très belle, etc., on rase tout, parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, non, il ne faut pas raser, puisque la structure existe. Par contre, ce qu'il faut, c'est rajouter à cette structure existante une structure de formation des paysans. C'est-à-dire que la personne qui séjourne sait qu'elle ne fait pas que séjourner, elle contribue à la formation des paysans. Et en même temps, il n'est pas question de repas à la carte ou des choses comme ça. Il y a un plat généreux, certes bien fait, mais un plat. Mmh. Et c'est déjà beaucoup. Donc on remet de l'éthique dans toute cette démarche-là. Et le point rejaillit dans sa réputation en disant non seulement ils font des voyages, mais ils forment les paysans. Ce n'est pas une compagnie comme les autres, puisqu'elle est, elle est très reliée, disons, à la condition des populations locales. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a lancé ça, qu'on a formé des centaines d'agents de l'agroécologie qui allaient dans leur village former les paysans. Mmh. Et on a lancé ça jusqu'au moment où le résultat était tel que Sankara m'a convoqué, disant, est-ce que vous ne pourriez pas prendre justement la gestion globale du pays, parce que les paysans sont tellement contents au niveau de l'agriculture, l'agroécologie d'une façon générale, parce que moi je ne faisais pas que l'agriculture, je faisais aussi de l'écologie. On mêlait l'agriculture à l'écologie, on n'était pas simplement séparés. J'ai dit oui, et etc. Et j'ai appris que c'est au moment où Sankara a été assassiné. Mmh. Donc le processus s'est arrêté, autrement le Burkina serait probablement un pays exemplaire.
Oui, ouais, ouais. Et le Burkina était très bien parti, Thomas Sankara réussissait très bien ses paris. Et lui, il avait vraiment à cœur de rendre sa population et son pays autonome et indépendant. Et
oui,
il parlait
absolument
beaucoup d'impérialisme. Et il y a un extrait vidéo dans lequel il invective sa population et il dit, mais vous savez, l'impérialisme, c'est pas, faut pas chercher très loin, hein, c'est dans votre assiette, regardez le maïs que vous importez, le riz que vous importez.
Oui,
c'est
il était très pédagogue, politique pédagogue.
Ouais, ouais.
Et il savait donc comment faire que les gens puissent aborder ces questions d'une façon réaliste et intelligente. Il était très pédagogue. C'était un homme exceptionnel.
Ouais. Mais pour revenir en ce qui concerne l'agroécologie en Afrique, pour vous, ce que vous avez pu expérimenter là-bas, c'est que donc les techniques... Bon, parce que l'agroécologie, c'est de l'agriculture en accord avec les lois de la nature et qui ne... vient pas détruire ou agresser ou entretenir un rapport de domination ou de surproduction à la terre. En fait, les techniques d'agriculture traditionnelle africaine sont agroécologiques.
On peut pas dire ça de façon intégrale parce que effectivement, le paysan, si vous voulez, l'art paysan, le départ qui essayait de survivre, il avait des connaissances acquises sur la façon de cultiver la terre. Et donc, il les a appliquées. Et puis, c'était l'agriculture paysanne, c'est-à-dire qu'on avait des animaux, on avait des... qui sont en symbiose avec tout un monde végétal, et puis tout ça fonctionnait sur le monde animal, le monde végétal. L'animal donnait la nourriture en même temps du fumier, le fumier était remis à la terre pour fertiliser la terre, et ainsi de suite, et la terre fertilisée nourrissait mieux, etc. Mais on a introduit l'agroécologie, c'est-à-dire qu'une compréhension beaucoup plus approfondie sur les phénomènes et les mécanismes de la vie, et donc fondée sur comment partir d'une matière organique brute et par compostage et transformation faire de cette matière organique brute un fertilisant de très haute qualité.
D'accord.
Lequel, si on l'amène au laboratoire et qu'on analyse qu'il y a un bon compost, bah, il y a des bactéries, il y a toutes sortes de petits insectes, il y a de tout qui procèdent justement de la dynamique de la vie.
Oui, voilà. Parce que, en fait, l'agroécologie, ça se définit un petit peu comme cette pratique de l'agriculture qui vise à régénérer la terre. C'est un peu ça.
Alors, il y a ça, mais il s'ajoute à cela, dans l'agroécologie, reboiser, lutter contre l'érosion des sols, bien sûr, sauvegarder les espèces et les variétés, la gestion de l'eau, l'usage et la gestion de l'eau, et tout est inspiré, disons, par cette dynamique de la vie.
Ouais, donc en fait, l'agroécologie, c'est particulièrement pertinent aujourd'hui pour l'Afrique, notamment pour les pays sahéliens, le Burkina Faso en fait partie, mais puisque donc la problématique du dérèglement climatique est en train de menacer très fortement les populations qui vivent dans ces pays et de destruction, en tout cas de destruction fracturation sociale très forte. Il y a vraiment de grandes menaces qui pèsent sur ces zones. Voilà. Et donc l'agroécologie permettrait d'apporter une réponse à la fois à la problématique de l'atténuation du dérèglement climatique et en même temps à celle de l'adaptation. C'est un peu ça aujourd'hui, les réponses dans le Sahel au dérèglement.
Non, quand vous dites qu'elle est adaptée au Sahel, elle est adaptée à toute la planète. L'agroécologie est planétaire. C'est simplement, dans la problématique du Sahel, on a affaire à une désertification graduelle. Mmh. La responsabilité, elle est aussi humaine.
Ouais.
Trop de troupeaux qui ont trop désertifié. Donc les agissements humains par le déboisement. Hop là.
Non, ça va.
Par un déboisement évidemment très violent. Tout ça fait partie, disons, de la contribution négative de l'être humain à la désertification. Et c'est vrai, et après il y a des phénomènes très particuliers. Quand un milieu est désertifié, d'une façon générale, la coloration du sol est plutôt claire.
Mmh.
Voilà. Quand il n'y a plus de végétaux. Alors ça fait ce qu'on appelle l'effet albédo, c'est-à-dire en fait vous avez le rayonnement solaire, et le rayonnement solaire quand c'est des espaces verts, etc., il est absorbé. Quand il n'y a pas ces espaces verts, il est rejeté dans l'atmosphère, réchauffe l'atmosphère, ce qui fait que ça raréfie les pluies à cause du manque de condensation. C'est-à-dire que la condensation ne se fait plus, donc les pluies deviennent rares. Et c'est comme ça que le processus terrestre produit dans l'atmosphère un processus négatif. Voilà, réfraction, la chaleur qui remonte à la surface, elle n'est pas absorbée, et le rayonnement qui monte dans l'atmosphère parce qu'il n'est pas absorbé.
Mmh.
Et ça crée donc un milieu où la condensation n'est plus possible,
mmh,
et les pluies se raréfient.
Donc une des solutions pour vous, dans le Sahel, ce serait l'exode urbain et la culture en agroécologie de plein de parcelles à des échelles de villages, de petites communautés locales plus ou moins grandes, et d'un maillage territorial et puis de circuits redessinés différemment pour permettre aux populations de ces différents pays d'être autonomes, complémentaires dans leur production alimentaire selon les régions. En tout cas, ce serait une des voies possibles qui permettrait d'envisager sereinement les années à venir.
Oui, avec un facteur climatique aléatoire, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Le facteur climatique, l'humain peut maîtriser un certain nombre d'éléments, mais il ne maîtrise pas le facteur climatique. Et lui, rien, absolument rien ne peut permettre aujourd'hui de dire que la France ne sera jamais sous une sécheresse terrible. Elle peut l'être. Voilà. C'est là que rentrent en compte, évidemment, tous les éléments qui échappent au contrôle et à la détermination humaine, d'où la nécessité, évidemment, de plus en plus de prendre en compte le fait que les actions que nous menons doivent être vraiment, clarifiées par rapport à tous ces phénomènes-là. Et aujourd'hui, quand vous voyez des champs à perte de vue, dénudés, etc.,
ouais,
alors que les paysans avaient organisé intelligemment les choses avec des haies, ils avaient aménagé la terre d'une façon formidable, magnifique, et bien on a tout rasé pour que le tracteur soit à l'aise et qu'on puisse ressembler aux Américains. Et donc le productivisme a détruit toutes les structures que les paysans avaient organisées intelligemment, parce qu'ils l'ont fait à partir de la sensibilité, mais pas à partir de la technocratie, du schéma américain. Et nous voilà dans des déserts ruraux, de plus en plus considérables, dénudés, monotones. On voit de temps en temps un village par-ci par-là, mais qui humanise un peu les choses, mais c'est devenu une espèce d'immense désert. L'agriculture a désertifié terriblement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut un plan différent, maintenant. Mais qui va le mettre en route? il se trouve que je suis ami depuis longtemps avec Hulot. Ben, il est parti bille en tête contre le glyphosate. Et il a suffi que les confédérations paysannes, ou je ne sais pas qui, pas la confédération paysanne, mais les industriels de la terre, montent au créneau, il n'est plus été question d'abolir le glyphosate. Voilà. Voilà la réalité.
Oui, la solution ne sera peut-être pas immédiatement politique, en tout cas. Ne passera peut-être pas par ces instances-là. Il y a un peu une insurrection aujourd'hui, quand même, dans la jeunesse, qui se mobilise, même dans la population, en fait, une insurrection citoyenne, qui voit de plus en plus les limites du système politique dans lequel elle est enfermée, voire dans lequel elle se sent prise en otage.
Ah, c'est la sortie de la grande illusion.
Ah oui, la grande illusion, c'est comment?
Ben, c'est d'avoir cru à ce modèle. Salvateur, parce qu'il se présentait comme salvateur. Il se présentait comme un modèle de progrès. C'est-à-dire qu'on va avancer davantage dans ce qu'on appelle le progrès. Il a fallu du temps pour comprendre que c'est le contraire. C'est une régression. C'est une régression terrible.
Alors qu'on fabriquait des oasis auparavant, aujourd'hui on s'est mis à fabriquer des déserts.
Oui, le désert, l'agriculture contribue à la désertification. Mais en même temps, ce qu'il y a de terrible, c'est qu'elle pollue la terre nourricière. C'est-à-dire qu'il y a la destruction des sols, très concrètement, par des taux d'engrais, des pesticides, des taux de poison qui ont atteint des niveaux terribles. On prend une terre vivante, vous prenez un échantillon, vous allez à un laboratoire, il va vous dire il y a telle bactérie, des colomboles, des vers de terre, etc. Vous prenez un échantillon de la terre moderne, il vous dit il n'y a rien. Voilà. C'est plus que de la matière minérale et non habitée. Il n'y a plus rien. Voilà. Or, tous ces micro-organismes, bactéries, etc., sont elles qui maintiennent la fertilité. Le ver de terre fait un travail remarquable parce que lui, il avale la terre, il l'imprègne de son mucus, et quand il a rejeté la terre, qu'il a avalée, c'est de la terre fertile. Et en même temps, il fait des galeries très profondes, ce qui fait que l'infiltration de l'eau se fait beaucoup plus facilement. Il fait un travail remarquable sans être payé. Il y a une ignorance actuellement déguisée en savoir. Il y a un savoir académique qui est ignorant.
Et donc ça me fait penser, il y a quelques techniques agricoles traditionnelles africaines, comme le zaï.
Zaï, oui. C'est intelligent.
Ouais. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce que c'est que le zaï?
Ben, le zaï, ça consistait sur toute la surface des sols à cultiver, ben, de creuser des trous. Des trous partout. Et c'est dans ces trous qu'on ensemence. Ce qui fait que quand l'eau tombe, elle est prise dans ces cavités et elle ne ruisselle pas, parce que quand l'eau tombe du ciel, si le sol n'est pas préparé, elle est plus destructrice que créatrice. C'est-à-dire la terre s'en va, l'eau qui tombe du ciel emporte la terre. Ce qui fait que ça contribue à désertifier. Le zaï, ben les paysans ont bien vu qu'en faisant des cavités, en faisant des aménagements comme ça, quand l'eau tombe, elle s'infiltre. C'est dans ces trous qu'ils ensemencent et ils obtiennent de très bons résultats. Là, en mettant un peu de fumier, un peu, ils obtenaient de très bons résultats. Et que quand le sol est dénudé, ils voient leur sol s'en aller. C'est-à-dire que la perte de la fertilité qui est pratiquement annuelle. Chaque année, il y a une perte de sol, perte de fertilité. Donc c'est une catastrophe. Et ça, c'est l'esprit moderne.
Donc il va falloir qu'on replonge dans nos racines.
Oui, qu'est-ce que vous appelez racine?
Changer complètement de modèle. Enfin, c'est-à-dire, quand je dis retourner aux racines, j'entends par là s'inspirer peut-être de ce que des sociétés qu'on appelle traditionnelles aujourd'hui, quand je pense en tout cas en Afrique, avaient réussi à développer des communautés de villages qui s'organisaient pour cultiver des surfaces moyennes, mais de manière collective. Tel jour, on cultive tel champ. Et pareil, à partager ensuite les ressources, ou en tout cas les gérer différemment, et peut-être sortir d'un...
Oui, la majorité des citoyens sont hors sol. Ils sont complètement hors sol. Ils sont dans leur ville, confinés dans quelques mètres carrés d'habitat, chacun dans sa cellule. En plus, pour vraiment en mettre beaucoup, on les stratifie, hein, stratification des immeubles, parce que ça, on tire parti de la surface de la terre disponible au maximum. Et les gens sont étrangers les uns aux autres. Ils sont pris dans un système qui désocialise complètement. Et la majorité des populations est là. Ce qui fait que effectivement, il peut y avoir une incitation à re-ruraliser. Parce que en fait, aujourd'hui, dans la réalité, en France, il n'y a plus que quelques villages par-ci, par-là, avec quelques paysans, etc. Et les villages sont souvent dévitalisés, il n'y a pas de vie. Par contre, les villes surpeuplées, absolument surpeuplées, de gens qui, grouillent sans même se rencontrer. C'est-à-dire qu'on se croise, et je prends le train, tout le monde est, le wagon archicombe, personne ne se parle parce que tout le monde est équipé d'instruments de communication. Non, mais il faut ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux dans la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Et il y avait des modes de fonctionnement sociaux qui étaient, qu'on disait, assez des corvées, mais non, elles étaient convivialisées. C'est-à-dire les gens, il y avait des femmes qui, le jour où il fallait aller au lavoir, rencontrer les copines, les gens, discuter, etc., elles allaient accomplir une tâche. Mais cette tâche, elle avait une valeur ajoutée, c'est la rencontre. Et aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres. Il faut créer des prétextes sociaux pour que les gens se retrouvent, ce qui était naturel et qu'on retrouve encore, et j'espère pour longtemps encore, dans certains pays du tiers-monde, où le marché, c'est une merveille. Les gens, c'est humain, quoi. Les gens sont là. C'est pour ça que je ne me prive jamais du marché, même ici, où il y a encore ce reliquat d'une convivialité, les gens qui sont là, qui vendent leurs trucs, on discute, on échange, on se croise, etc. Et ça, je trouve ça magnifique. Tous les mercredis, je vais au marché. Et ça, pour moi, c'est là que je retrouve vraiment quelque chose qui est de l'ordre humain.
Oui. Dans un de vos livres, j'ai noté que vous parliez du drame de notre modernité, c'est que nous ne sommes ni plus reliés à un corps social, ni plus enracinés dans un territoire.
Non.
Et du coup, on est un peu comme ça, perdu.
Hors sol et suspendu. Hors sol complètement et suspendu on ne sait pas trop quoi.
Ça fait des cultures dévitalisées.
Complètement. Et en plus, la nourriture est dévitalisante. Donc le corps est mal alimenté, l'esprit est embrouillé par tout un univers de concepts. Le divertissement est devenu industriel. Qu'est-ce que ça va donner ?
Et pour la génération qui a envie de se mobiliser et de se mettre au chantier, est-ce que vous avez des conseils un petit peu de...
Non, il y a des vocations dans ce sens-là. Mais ces vocations, bon, les gens deviennent bénévoles, deviennent ceci, mais il faudrait que l'État et les gouvernants prennent en compte cette nécessité. Et à ce moment-là, on s'organise pour qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Il devrait y avoir une possibilité d'expérimenter autre chose et de se faire son initiation propre pour sortir du conformisme du système. Ça devrait être organisé comme ça. L'accès à la terre devrait se faire évidemment sous condition que la personne ait appris, bien sûr, se soit préparée. Ça, c'est une condition incontournable et sine qua non. Et ensuite, faciliter par exemple le système foncier, de façon à ce que l'approche du jeune qui voudrait travailler la terre puisse se faire dans les conditions facilitées. Non pas qu'ils doivent se démener pour essayer de trouver quelque chose. Et ça procéderait en quelque sorte d'une réforme générale du système social. De toute façon, soit il se fera avec une planification, soit il se fera dans le désordre et dans la violence. De toute façon, la ville est condamnée. C'est évident que la ville est condamnée. C'est une question de temps, c'est tout. Mais elle est condamnée. Je ne vois pas comment, le jour où les camions ne peuvent plus transporter de la nourriture aux gens, ils vont faire quoi, les gens? S'il n'y avait pas les camions tous les jours qui transportent les trains et tout ça, qui nourrissent cette population concentrationnaire, si ça s'arrête, vois vraiment pas. Et puis, de toute façon, le système est entièrement fragile. Sous les apparences de solidité, c'est le plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. S'il n'y a plus d'électricité, plus de carburant, plus de communication, c'est l'effondrement général. Ça tient à ça. Ça tient plus qu'à ça. Et la nature est méconnue, elle est loin. Et voilà. C'est... Alors que le premier apprentissage d'un petit être humain, si j'en avais l'autorité, ce serait justement d'apprendre à jardiner, d'apprendre à s'occuper des petits animaux, d'apprendre des choses de la vie. Et là, au lieu d'apprendre la vie, il est déjà dans le monde virtuel. Les écrans sont très dangereux et devraient être réglementés par rapport aux enfants. Et puis, on aura un adulte en suspens qui ne saura rien faire de ses mains, absolument rien, et qui en fait sera tellement conditionné dans un monde virtualisé, dans un monde dans lequel il a les réponses et les connexions à la vie uniquement par voie artificielle pas du tout par voie naturelle, et ça fera des désastres. Ça moi je suis persuadé qu'on va vers ça.
Pas très optimiste donc.
Bernanos disait l'optimiste c'est l'imbécile heureux et le pessimiste l'imbécile triste. Moi je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis simplement réaliste, c'est tout. Je fais une analyse. Moi, pour moi ça ne veut rien dire optimiste ou pessimiste, rien. Absolument rien. Parce qu'il peut y avoir des retournements, des choses. Je vois, j'analyse, je dis objectivement où est-ce que ça peut mener, qu'est-ce que ça peut produire. Voilà. Et c'est objectif. Quand on rassemble certains éléments, on dit ces éléments, leur combinatoire produit telle chose. Et c'est pas pessimiste, parce qu'après on rentre dans le domaine de l'intuition des uns et l'intuition des autres, c'est pas du tout ça. Moi, je prends les faits, et avec ces faits, je dis qu'est-ce qu'on peut construire. Parce que l'optimiste, ça voudrait dire, ou le pessimiste, une espèce de prophétie. Je suis pessimiste, ou je suis optimiste. C'est l'invocation du prophète. C'est pas ça. C'est pas de la prophétie, c'est du réalisme. Voilà. Et à partir de là, je dis les choses comme je les sens, j'agis. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le blablabla, j'agis et je dis, voilà les possibles. Maintenant, il est possible de s'en sortir, mais pas dans le modèle actuel. Mais je sens, par contre, je suis convaincu que beaucoup d'êtres humains souffrent à cause d'autres êtres humains, qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim à cause de notre égoïsme et de notre boulimie. Et ça, c'est du réalisme.
Oui, c'est un modèle de société dominant qui se nourrit de toutes les richesses produites par toutes les autres sociétés à l'échelle de notre planète, qui est en train d'exterminer tout le monde. C'est pas le mode de vie du Burkinabé moyen qui pose problème à l'heure actuelle. C'est ça, enfin, l'anthropocène, c'est pas un anthropocène, c'est un occidentalocène en réalité. En tout cas, un industrialocène.
L'Europe était constituée de petits paysans qui travaillaient leur terre, qui avaient toute une tradition, ils chantaient, ils dansaient, ils étaient reliés à la nature, à la terre, etc. Je ne dis pas que c'était des saints, mais ils étaient dans la logique de la vie. Et on est sorti de la logique de la vie pour entrer dans la logique du monde du profit et de la dissipation, de la destruction, de la pollution, etc., etc. Donc on est...
Le capitalocène plutôt.
Si on veut. C'est-à-dire que le capitalisme est fait de l'avidité individuelle. Alors on dit capitalisme ou capitaliste, ça n'empêche pas que des gens poussent des caddies pour aller donner leur argent aux capitalistes. Il y a des gens qui vont dans les supermarchés. Les supermarchés, ça a été la destruction du tissu social convivial qu'on trouve encore dans les pays où c'est le marché, c'est la personne et c'est jubilatoire, c'est vivant. Mais maintenant, les gens, ils vont pousser des caddies et on est retourné dans une certaine néolithique, c'est-à-dire le régime de la cueillette. On cueille et puis ça finit par je donne mes sous aux multinationales. Non, et tout le monde accepte, tout le monde est lobotomisé, conditionné à un mode de pensée qui est un mode de pensée crétin, complètement crétin.
dans lequel pas mal de pays se sont embarqués pendant de nombreuses années et qui ont aujourd'hui la possibilité de voir clairement les limites du modèle et de changer de cap radicalement. C'est pour ça que l'Afrique est intéressante à ce niveau-là, parce que ça reste encore le continent qui est le moins défiguré par ce modèle de société et qui a encore des ressources et encore une créativité, une capacité d'innovation sociale
forte. Il a la possibilité, mais est-ce qu'elle l'applique ? Peut-être la volonté, mais est-ce qu'ils se sont affranchis de l'illusion occidentale ?
Non, mais dans une réflexion pour un petit peu dessiner les directions dans lesquelles les Afriques et les différentes sociétés africaines peuvent s'engager pour changer de cap, il y a cette idée qu'en fait c'est possible et c'est plus facile presque parce qu'on n'a pas construit d'immeubles, parce qu'on n'est pas dépendant d'un réseau routier ou autre pour
ça. Il y avait un type Sankara.
Il avait Sankara, ouais.
Il avait compris tout ça, lui.
Ouais.
Compris tout ça, moi c'était un régal Sankara. Il avait compris tout ça. D'ailleurs, il a modifié de la haute volta au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, parce qu'il a bien compris que ce qui ruine l'Afrique, c'est la corruption. La corruption est une épidémie en Afrique. Tous ceux qui ont disposent d'un peu de moyens, des petits roitelets qui sont ici ou là sont corrompus. Et ça marche pas. L'Algérie, c'est une catastrophe. Toute la rente pétrolière passe dans des poches d'une mafia qui gère le pays, etc., etc. Donc s'il n'y a pas la vertu, et c'est pour ça que ce qu'il y avait d'intéressant chez Sankara, c'est qu'il avait une dialectique. Il était tout à fait dans la connaissance très approfondie de ce qu'on entend par la politique, dans ce qui était de la géopolitique, et dans ce qui était, évidemment, du rapport entre le progrès, le prétendu progrès et la tradition, et aussi la valorisation de la femme. Et même dans le fait d'associer les populations. J'étais au Burkina quand Mitterrand a fait sa visite au Burkina Faso. Évidemment, il est venu comme un suzerain par rapport à des vassaux. Et Sankara, il l'a accueilli, évidemment. Parce que lui, il avait une 104 personnelle.
Oui, c'est tout. Toute petite voiture, voilà. Et tous ses ministères également.
104. Oui. Bon. Donc sobriété, etc. Et quand Mitterrand est venu, ça devait se passer un peu comme ça se passe habituellement, on se congratule, et puis on se sépare et on n'a rien fait vraiment de. Et en fait, lui, il a instauré, il a accueilli Mitterrand en disant il faut qu'on discute. C'est pas le tout de venir nous bénir et repartir. Et il y a eu un débat vraiment intéressant. Cerise sur le gâteau. Il a fait mettre des micros partout. Dans toute la ville de Ouagadougou, il y avait des micros, c'est-à-dire que de chez soi, on pouvait entendre ce que disait. Il n'y avait pas de huis clos.
Wow.
Oui.
Wow.
Il n'y avait pas le huis clos. Et on entendait les débats. Et comme il avait quand même de la répartie, il n'avait pas peur de Mitterrand. Hein. Donc ils sont allés dans une analyse très approfondie du rapport qu'il y avait en particulier entre la France et le Burkina. Et c'était un régal parce que tout était posé clairement. Les tenants, les aboutissants, et tout le monde pouvait entendre. Donc voilà. Et le discours de Sankara par rapport aux femmes, vos femmes ne sont pas vos esclaves, elles sont vos compagnes, elles sont. Et tout. Il n'est pas étonnant qu'il ait été tué, parce qu'il allait complètement dans le sens inverse du mode de fonctionnement qui a prévalu jusqu'à lui. Donc il était dans une forme de révolution, qui était une révolution non seulement, bien sûr, ouverte, mais aussi qui tenait compte aussi de la révolution qu'il fallait réaliser au plan de simplement social plus élémentaire, plus la géopolitique. C'est-à-dire quel rapport entre les puissants, entre guillemets, et les autres. Et c'était complet. Et moi, il m'avait demandé, il m'avait dit, il faut absolument qu'on change l'agriculture. Il y a des paysans qui témoignent que ce que vous leur avez apporté les a beaucoup aidés. Et ben maintenant, il faut le généraliser.
Passer à l'échelle.
Pas d'achat d'engrais, on ne s'en ruine pas en engrais chimiques produits par les usines, surtout étrangères, etc. Revenir valoriser les traditions. et ne pas les gommer comme ça, comme on l'a fait un peu partout, on gomme les traditions, on installe autre chose. Il avait vraiment compris énormément de choses, et moi j'aurais eu une grande joie à rentrer dans une réforme, disons, qui atteint l'échelle des décisions politiques, et non pas simplement qui resterait dans l'élément du factuel ordinaire. Voilà. Et ça, c'est une grande déception de ma vie. Ouais. Mais ça continue, je suis retourné au Burkina, l'agroécologie se poursuit. Après, ils s'organisent avec la sous-région, il y a des petits congrès qui s'organisent un peu partout. Et donc, c'est en train d'évoluer à peu près. Et puis, il faut insister sur l'éducation des enfants. Il faut que les enfants soient initiés à l'écologie dès qu'ils peuvent comprendre. Et les écoles, ça devrait être jardinage, travail manuel et bien sûr instruction. Instruction classique plus développement du manuel, parce qu'aujourd'hui, des jeunes infirmes, complètement infirmes, incapables de faire quoi que ce soit de leurs mains. Les mains ne sont pas éduquées. C'est simplement une espèce d'encyclopédisme qu'on appelle et qui n'est pas de la culture. Parce que l'encyclopédie, ce n'est pas la culture. L'encyclopédie, c'est un empilement de connaissances. Mais ce n'est pas ça la culture. Ça n'a rien à voir. Et donc il y a une confusion. La quantité de savoir encyclopédique ne donne pas une culture. Et puis il y a des gens qui n'ont même pas la prétention d'être dans des connaissances, et ils ont les connaissances. Sans même s'en rendre compte, ils les ont. Ils les ont, ils les appliquent, ils savent survivre.
Bien vivre.
Et bien vivre. Avec le rapport au temps n'a pas été celui qui a été instauré en Occident, avec le « time is money ». Donc c'est tout ça qui fait en quelque sorte les éléments constitutifs d'un système qu'il faut en quelque sorte réformer en profondeur. Et ça doit passer par la sobriété. Ça ne sert à rien de rentrer dans un processus d'insatiabilité permanente. À ce moment-là, la planète n'y suffira pas, quoi, si tout le monde fait. Et donc, en disant revenons à la sobriété, c'est-à-dire comment je vais diminuer le niveau du contentement. Parce que maintenant, on est dans toujours plus, mais il n'y a pas de contentement. Ça ne donne pas à l'être humain la satisfaction de ce contentement profond, d'avoir ce qu'il faut, d'être quand même dans une espèce de jubilation. Aujourd'hui, c'est toujours ce qui manque qui prend de l'importance. Mais ce qu'on a, on ne le voit plus. En fait, comme on est de plus en plus dans une impasse, fini la jubilation des 30 glorieuses, on perdait un emploi, le lendemain on en trouvait un autre, etc. Ce qui, paradoxalement, a donné mai 68, où toute une jeunesse protestait contre la civilisation de consommation. Ils protestaient contre l'excès de biens. C'était ça. Société de consommation, ras-le-bol, on n'a plus d'espace de création, on est là que pour consommer, produire, etc., ras-le-bol de cette société. C'est ça, en fait. Maintenant, ça ne peut pas se reproduire. Mai 68 n'est pas reproductible aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans la surabondance. On est de plus en plus dans la pénurie. Donc, c'est plus la même chose. Voilà, en gros.
Merci. C'était Afrotopique, le podcast de Génération Afrotopia. On espère que cet épisode vous a plu, que vous aurez envie de découvrir les autres et d'en parler autour de vous. Si vous voulez creuser des sujets et recevoir la lettre de ressources qui accompagne désormais chaque épisode et être tenu au courant de nos événements, vous pouvez vous abonner en suivant le lien dans la description. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et nous écouter sur les plateformes amies comme R22.fr ou Imago TV. La musique du générique est un extrait de l'album « Parler d'années de la Terre » de Rossé, et en introduction, vous avez entendu la voix d'Amadou Ampateba. À bientôt !